Chapitre 15. La rencontre. Le bruit qui troublait le sommeil de notre héroïne était celui d'un corps quelconque passant et repassant à l'extérieur sur la porte de sa chambre avec une obstination et une maladresse singulières. Ce toucher était trop sec et trop intelligent pour être celui d'une main humaine cherchant à trouver la serrure dans l'obscurité. Et pourtant, comme le bruit ne ressemblait pas à celui que put faire un rat, Marcel ne put s'arrêter à aucune autre hypothèse. Elle pensa que quelqu'un de la ferme couchait dans le vieux château, peut-être un serviteur ivre qui se trompait d'étage et cherchait son gîte à tâtons. Se rappelant alors qu'elle n'avait pas ôté la clé de sa chambre, elle se leva afin de réparer cet oubli, aussitôt que la personne se serait éloignée. Mais le bruit continuait, et Marcel n'osait entr'ouvrir la porte pour effectuer son dessein, dans la crainte en se montrant d'être insulté par quelque lourdeau. Cette petite anxiété commençait à devenir fort désagréable, lorsque la main incertaine s'impatienta et gratta la porte de telle façon que Marcel crut reconnaître les griffes d'un chat, et souriant de son émotion, elle se décida à ouvrir pour accueillir ou chasser cet habitué de son appartement. Mais à peine eut-elle entr'ouvert avec un reste de précaution que la porte fut repoussée sur elle avec violence et que la folle s'ouvrit à ses regards sur le seuil de sa chambre. Cette visite parut à Marcel la plus déplaisante des suppositions qu'elle aurait pu faire, et elle hésita si elle ne repousserait pas par la force ce personnage inquiétant, malgré ce qu'on lui avait dit de la tranquillité habituelle de sa démence. Mais le dégoût que lui inspirait l'état de malpropreté de cette malheureuse, et encore plus un sentiment de compassion, l'empêchèrent de s'arrêter à cette idée. La folle ne paraissait pas s'apercevoir de sa présence. Il était probable que dans son goût pour la solitude, elle se retirerait aussitôt que Marcel se ferait remarquer. Madame de Blanchemont jugea donc à propos d'attendre et d'observer quelle serait la fantaisie de sa fâcheuse hôtesse, et reculant, elle alla s'asseoir sur le bord de son lit, dont elle ferma les rideaux derrière elle, afin qu'Édouard, s'il venait à s'éveiller, ne vît pas la vilaine femme dont il avait eu peur dans la garenne. La bricoline, nous avons déjà dit que chez nous, toutes les aînées de familles de paysans et de bourgeois de campagne portaient le nom héréditaire féminisé en guise de prénom, traversa la chambre avec une certaine précipitation, et s'approcha de la fenêtre qu'elle ouvrit avec beaucoup d'efforts inutiles. La faiblesse de ses mains étiques et la longueur de ses ongles qu'elle ne voulait jamais laisser couper la rendant fort maladroite. Quand elle fut parvenue, elle se pencha dehors et d'une voix étouffée à dessein, elle appela Paul. C'était sans doute le nom de son amant qu'elle attendait toujours, et à la mort duquel elle ne pouvait se résoudre à croire. Ce lamentable appel n'ayant éveillé aucun écho dans le silence de la nuit, elle s'assit sur le banc de pierre qui, dans toutes les antiques constructions de ce genre, occupe l'embrasure profonde de la fenêtre, et resta muette, roulant toujours son mouchoir ensanglanté et paraissant se résigner à l'attente. Au bout de 10 minutes environ, elle se releva et appela encore, toujours à voix basse, comme si elle eût cru son amant caché dans les broussailles du fossé et comme si elle eût craint d'éveiller l'attention des gens de la ferme. Pendant plus d'une heure, l'infortunée continua ainsi, tantôt nommant Paul et tantôt l'attendant avec une patience et une résignation extraordinaires. La lune éclairait en plein son visage décharné et son corps difforme. Peut-être y avait-il pour elle une sorte de bonheur dans cette vaine espérance. Peut-être se faisait-elle illusion au point de rêver tout éveillée qu'il était là, qu'elle l'écoutait et lui répondait. Et puis quand le rêve s'effaçait, elle le ramenait en appelant de nouveau son nom bien-aimé. Marcel la contemplait avec un profond déchirement de cœur. Elle voulut surprendre tous les secrets de sa folie dans l'espérance de trouver quelque moyen d'adoucir une telle souffrance. Mais les fous de cette nature ne s'expliquent pas, et il est impossible de deviner s'ils sont absorbés par une pensée qui les ronge sans relâche, ou si l'action de la pensée est suspendue en eux par intervalles. Lorsque la misérable fille quitta enfin la fenêtre, elle se mit à marcher dans la chambre avec la même lenteur et la même gravité qui avaient frappé Marcel dans l'allée de la Garenne. Elle ne paraissait plus songer à son amant, et sa physionomie, fortement contractée, ressemblait à celle d'un vieux alchimiste perdu dans la recherche de l'absolu. Cette promenade régulière dura encore assez longtemps pour fatiguer extrêmement Madame de Blanchemont, qui n'osait ni se coucher ni quitter son fils pour aller réveiller la petite Fanchon. Enfin, la folle prit son parti et, montant un étage, elle alla à une autre fenêtre, recommencer à appeler Paul par intervalle et à l'attendre en se promenant. Marcel songea alors qu'elle devait aller avertir les bricolins. Sans doute ils ignoraient que leur fils était échappé de la maison et qu'elle courait peut-être le danger de se suicider ou de se laisser tomber involontairement par une fenêtre. Mais la petite Fanchon, qu'elle éveilla non sans peine, afin qu'elle se tînt auprès du lit d'Édouard pendant qu'elle irait elle-même au château neuf, la détourna de ce projet. « Eh non, madame, lui dit-elle, les bricoleurs ne se dérangeront pas pour cela. Ils sont habitués à voir courir cette pauvre demoiselle la nuit comme le jour. Elle ne fait pas de mal. Il y a longtemps qu'elle a oublié de se périr. On dit qu'elle ne dort jamais. Il n'est pas étonnant que par les temps de lune, elle soit plus éveillée encore. Fermez bien votre porte pour qu'elle ne vienne plus vous ennuyer. Vous avez bien fait de ne rien lui dire. Ça aurait pu la choquer, la rendre méchante. Elle va faire son train là-haut jusqu'au jour, comme les caboches, les chouettes. Mais puisque vous savez ce que c'est à présent, ça ne vous empêchera pas de dormir. » La petite Fanchon parlait à son aise, elle qui, grâce à ses 15 ans et à son tempérament paisible, eût dormi au bruit du canon, pourvu qu'elle ait su ce que c'était. Marcel eut un peu de peine à suivre son exemple, mais enfin, la fatigue l'emporta et elle s'endormit au pas régulier et continuel de la folle qu'elle entendait au-dessus de sa chambre ébranler les solives tremblantes du vieux château. Le lendemain, Rose apprit avec regret, mais sans surprise, l'incident de la nuit. « Eh bien, mon Dieu, dit-elle, nous l'avions pourtant bien enfermée, sachant qu'elle a l'habitude d'errer de tous côtés dans le vieux château, de préférence pendant la lune. C'est pour cela que ma mère ne se souciait pas de vous y loger. Mais elle aura encore trouvé moyen d'ouvrir sa fenêtre et de s'en aller par là. Elle n'est ni forte ni adroite de ses mains, mais elle a tant de patience. Elle n'a qu'une idée, elle ne s'en repose jamais. Monsieur le baron, qui n'avait pas le cœur aussi humain que vous, et qui riait des choses les moins risibles, prétendait qu'elle cherchait, si je me souviendrai de son mot, la quadrature. Oui, c'est cela, la quadrature du cercle. Et quand il la voyait passer, « Eh bien, nous disait-il, Votre philosophe n'a pas encore résolu son problème. Non, je ne me sens pas d'humeur à plaisanter sur un sujet qui navre le cœur, répondit Marcel. Mais j'ai fait des rêves lugubres cette nuit. Tenez, Rose, nous voilà bonnes amies, nous le deviendrons, je l'espère, de plus en plus. Et puisque vous m'avez offert votre chambre, je l'accepte à condition que vous ne la quitterez pas et que nous la partagerons. Un canapé pour Édouard, un lit de sang pour moi, il n'en faut pas davantage. Oh, vous me comblez de joie, s'écria Rose en lui sautant au cou. Oh, cela ne me causera aucun dérangement. Il y a deux lits dans toutes nos chambres. C'est l'habitude de la campagne, où l'on est toujours prêt à recevoir quelque amie ou quelque parente. Et je vais être si heureuse de causer avec vous tous les soirs. L'amitié des deux jeunes femmes fit en effet beaucoup de progrès dans cette journée. Marcel y mettait d'autant plus d'abandon que c'était la seule douceur qu'elle pût se promettre chez les bricolins. Le fermier la promena dans une partie de ses dépendances, lui parlant toujours d'argent et d'arrangement. Il dissimulait son désir d'acheter, mais c'était en vain. Et Marcel, qui pour en finir plus vite avec des préoccupations si antipathiques à son esprit, était prête à lui faire une partie des sacrifices qu'il exigeait, aussitôt qu'elle se serait assurée de l'exactitude de ses calculs, mais elle usait pourtant d'un peu d'adresse avec lui pour le tenir dans l'inquiétude. Rose lui avait fait entendre qu'elle pouvait avoir dans cette circonstance beaucoup d'influence sur sa destinée, et d'ailleurs Grand Louis lui avait fait promettre de ne rien décider sans le consulter. Madame de Blanchemont se sentait une pleine confiance dans cet ami improvisé, et elle résolut d'attendre son retour pour faire choix d'un conseil compétent. Il connaissait tout le monde et il avait trop le jugement pour ne pas la mettre en bonne main. Nous avons laissé le brave meunier partant pour la ville de... avec la pierre, Suzette et le patachon. Ils y arrivèrent à 10 heures du soir et le lendemain, dès la pointe du jour, Grand Louis ayant embarqué les deux domestiques dans la diligence de Paris, se rendit chez le bourgeois auquel il avait l'intention de faire acheter la calèche. Mais en passant devant la poste aux lettres, il se dirigea vers l'entrée du bureau pour remettre au buraliste en personne celle que Marcel l'avait chargée d'affranchir. La première ligne figure qui frappa ses regards fut celle du jeune inconnu qui était venu 15 jours auparavant errer dans la vallée noire, visiter Blanchemont, et que le hasard avait amené au moulin d'Angibault. Ce jeune homme ne fit aucune attention à lui. Debout à l'entrée du bureau, il lisait avidement et d'un air fort ému une lettre qu'il était venu recevoir. Grand Louis, tenant dans ses mains celle de Madame de Blanchemont, et se rappelant que le nom d'Henri, gravé sur un arbre au bord de la Vauve, avait beaucoup préoccupé cette jeune dame, jeta un regard furtif sur l'adresse de la lettre que lisait le jeune homme et qui se trouvait naturellement à la portée de sa vue, l'inconnu tenant ce papier devant lui de manière à en bien cacher le contenu et à en montrer parfaitement l'extérieur. En un clin d'œil rapide et d'une curiosité bienveillante, le meunier vit le nom de M. Henri Lesmort tracé de la même main que l'adresse de la lettre dont il était porteur. Aucun doute, ces deux lettres étaient de Marcel et l'inconnu était... Le meunier n'y vit pas de façon dans sa pensée l'amant de la belle veuve. Grand Louis ne se trompait pas. Le premier billet que Marcel avait écrit de Paris et qu'un ami de Lesmort, chargé de ce soin, lui avait fait tenir poste restante à... venait d'arriver en cet instant aux mains du jeune homme. Et il était loin de s'attendre au bonheur de recevoir immédiatement un second, Lorsque grand Louis passa facétieusement ce trésor entre ses yeux et celui qu'il était en train de relire pour la troisième fois. Henri tressaillit et se jetant avec impétuosité sur cette lettre, il allait s'en emparer lorsque le meunier lui dit, en la lui retirant, « Ah non, non, pas si vite, mon garçon. Le buraliste nous voit peut-être du coin d'œil. J'ai pas envie qu'il me fasse payer l'amende, qui n'est pas mince. Nous allons causer un peu plus loin, car je ne pense pas que vous ayez la patience d'attendre que cette jolie lettre revienne de Paris, où elle en verrait certainement, malgré vos réclamations et votre passeport, puisqu'elle n'est pas adressée ici poste restante. Suivez-moi au bout de la promenade. » Lénore le suivit, mais un scrupule était déjà venu alarmer le meunier. « Attendez, dit-il, quand ils eurent gagné un endroit convenablement isolé. Vous êtes bien l'individu dont le nom est porté sur cette lettre. Vous n'en doutez pas, sans doute, vous me connaissez apparemment puisque vous me l'avez présenté. Non, c'est égal, vous avez bien un passeport. Certainement, puisque je viens de le produire à la poste pour retirer ma correspondance. Ah, c'est encore égal. Dussiez-vous me prendre pour un gendarme déguisé ? Voyons-le, dit le meunier en lui donnant la lettre. Donnant, donnant. Oh, vous êtes fort méfiant, dit les morts en se hâtant de lui donner ses papiers. Un petit moment encore, reprit le prudent meunier. Je veux pouvoir faire serment, si les gens de la poste m'ont vu vous donner cette lettre, que je vous l'ai remise décachetée. Et il brisa le cachet très lestement, mais sans se permettre d'ouvrir la lettre, qu'il remit à Henri tout en prenant son passeport. Tandis que le jeune homme lisait avidement, le meunier, qui n'était pas fâché de satisfaire sa curiosité, prenait connaissance des titres et qualités de son inconnu. Henri Lémort, âgé de 24 ans, natif de Paris, profession d'ouvrier mécanicien, se rendant à Toulouse, Montpellier, Nîmes, Avignon et peut-être Toulon et Alger pour y chercher de l'emploi et y exercer son industrie. « Diable !» se disait le meunier, « ouvrier mécanicien, aimé d'une baronne !» Cherchant de l'ouvrage et pouvant peut-être épouser une femme qui a encore 300 000 francs. Ce n'est donc que chez nous qu'on préfère l'argent à l'amour et que les femmes sont si fières. Il n'y a pas tant de distance entre la petite fille du père Bricolin, le laboureur et le petit-fils de mon grand-père, le meunier, qu'entre cette baronne et ce pauvre diable. « Ah, mademoiselle Rose, je voudrais bien que madame Marcel vous apprît le secret d'aimer. » Puis, faisant lui-même le signalement du jeune homme, sans regarder celui du passeport, grand Louis se disait en examinant Henri absorbé dans sa lecture, « Taille médiocre, visage pâle, c'est joli, si l'on veut, mais cette barbe noire, ce vilain. Tous ces ouvriers de Paris ont l'air de porter toute leur force au menton. » Et le meunier comparait avec une secrète complaisance ses membres athlétiques à l'organisation plus délicate de les morts. Il me semble, se disait-il, que s'il ne faut pas être plus remarquable que ça pour tourner la tête à une femme d'esprit et à une belle dame, mademoiselle Rose pourrait bien s'apercevoir que son très humble serviteur n'est pas plus mal tourné qu'un autre. Après cela, c'est parisien, ça vous a une certaine grâce, une tournure des yeux noirs, je ne sais quoi qui vous fait paraître pâteau à côté d'eux. Et puis sans doute que celui-là a plus d'esprit qu'il est gros. S'il pouvait m'en donner un peu, m'enseigner lui aussi son secret pour être aimé. Chapitre 16. Diplomatie. Au beau milieu de ses réflexions, Maître Louis s'aperçut que le jeune homme, dans ses préoccupations beaucoup plus vives, s'éloignait sans songer à lui. Voilà, mon camarade, lui dit Grand Louis en courant après lui, vous voulez donc me laisser votre passeport? Ah, mon cher ami, je vous oubliais, je vous en demande pardon, répondit les morts. Vous m'avez rendu le service de me remettre cette lettre et je vous dois 1000 remerciements. Mais je vous reconnais à présent. Je vous ai déjà vu il n'y a pas longtemps. Mais c'est à votre moulin que j'ai reçu l'hospitalité. Ah, oh, mais un endroit superbe et une si bonne mère. Vous êtes un homme heureux, vous, car vous êtes franc et serviable aussi, cela se voit. Oui, une belle hospitalité, dit le meunier. Parlons-en. Après cela, c'est votre faute si vous n'avez voulu accepter que du pain et de l'eau. Ça m'avait donné un peu mauvaise opinion de vous, avec ça que vous avez une barbe de capucin. Cependant, vous n'avez pas plus que moi-même la vie d'un jésuite. Et si ma figure vous revient, la vôtre me revient aussi. Quant à être un homme heureux, bon, je vous conseille de porter envie aux autres et surtout à moi. C'est donc pour vous moquer. Non, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Avez-vous éprouvé quelque malheur depuis que je vous ai vu? Bon, il y a longtemps que je porte un malheur qui finira Dieu sait comment. Mais je n'ai pas plus envie d'en parler que vous de m'écouter, car vous avez aussi, je le vois bien, beaucoup de tic-tac dans la cervelle. Ah, ça! Est-ce que vous n'allez pas me donner un mot de réponse pour la personne qui vous a écrit? Qu'en serait-ce pour attester que j'ai bien fait ma commission? Vous connaissez donc cette personne? Dit les morts tout tremblant. Tiens, vous n'aviez pas encore pensé à me le demander. Où sont donc vos esprits? L'air de bienveillance un peu goguenarde du grand Louis commençait à inquiéter les morts. Ils craignaient de compromettre Marcel, et cependant la physionomie de ce paysan n'était pas faite pour inspirer la méfiance. Mais Henri crut devoir affecter une sorte d'indifférence. « Je ne connais pas beaucoup moi-même, dit-il la dame qui m'a fait l'honneur de m'écrire. Comme le hasard m'avait conduit dernièrement dans le pays où elle possède des biens, elle a pensé que je pourrais lui donner quelques renseignements. « Ah, d'autres !» interrompit le meunier. « Elle ne sait pas du tout que vous y êtes venu. Encore moins pourquoi vous l'avez fait. Voilà ce que je vous prie de me dire si vous ne voulez pas que je le devine. » C'est à quoi je répondrai un autre jour, dit Lénore avec un peu d'impatience et de fierté ironique. « Vous êtes curieux, l'ami, et je ne sais pourquoi vous voulez voir du mystère dans ma conduite. »« Il y en a, l'ami !» Je vous dis qu'il y en a, puisque vous ne lui avez pas fait savoir que vous étiez venu dans la vallée noire. La persistance du meunier devenait de plus en plus embarrassante, et Henri, craignant de tomber dans quelque piège ou de commettre quelque imprudence, songea à se délivrer de ses investigations bizarres. Je ne sais ni de qui ni de quoi vous voulez me parler, répondit-il en haussant les épaules. Je vous renouvelle mes remerciements et je vous salue. Si la lettre que vous m'avez remise exige une réponse ou un reçu, je l'enverrai par la poste. Je pars dans une heure pour Toulouse et je n'ai pas le loisir de m'arrêter plus longtemps avec vous. Oh, vous partez pour Toulouse ? Dit le meunier en doublant le pas pour le suivre. J'aurais cru que vous alliez venir avec moi à Blanchemont. Pourquoi à Blanchemont? Parce que, si vous avez à donner des conseils à la dame de Blanchemont sur ses affaires comme vous le prétendez, il serait plus obligeant d'aller vous expliquer avec elle que d'écrire deux mots à la hâte. C'est une personne qui vaut bien la peine qu'on se dérange de quelques lieux pour lui rendre service, et moi qui ne suis qu'un meunier, j'irai au bout du monde s'il le fallait. Les morts informés, presque malgré lui, du lieu que Marcel avait choisi momentanément pour sa retraite, ne pût se décider à se séparer brusquement d'un homme qui la connaissait et qui semblait si disposé à lui parler d'elle. L'espèce de proposition et de conseil qu'on lui adressait d'aller à Blanchemont faisait passer des éblouissements dans cette jeune tête volontairement stoïque, mais profondément bouleversée par la passion. Agitée de désirs et de résolutions contradictoires, il laissait paraître sur son visage toutes les perplexités qu'il croyait renfermées dans son âme, et le pénétrant meunier ne s'y trompait pas. Bon, si je croyais, dit enfin les morts, que des explications verbales fussent nécessaires, non, mais en vérité, je ne le pense pas. Cette dame ne m'indique rien de semblable. Oui, dit le meunier d'un ton railleur. Cette dame, vous croyez à Paris, et on ne fait pas venir un homme de si loin pour quelques paroles. Mais peut-être que si elle vous avait su si près, elle m'aurait commandé de vous ramener avec moi. Non, monsieur le meunier, vous vous trompez, dit Henri, effrayé de la pénétration du grand Louis. Les questions qu'on me fait l'honneur de m'adresser n'ont pas assez d'importance pour cela. Non, décidément, j'y répondrai par écrit. Et en s'arrêtant à ce dernier parti, Henri sentait son cœur se briser. Car malgré sa soumission aux ordres de Marcel, l'idée de la revoir encore une fois avant de s'en éloigner pour une année entière avait fait bouillonner tout son sang énergique. Mais ce maudit meunier, avec ses commentaires, pouvait, soit par malice, soit par légèreté, rendre sa démarche compromettante pour la jeune veuve, et les morts devaient s'en abstenir. « Vous ferez ce qui vous plaît, » dit le grand Louis, un peu piqué de sa réserve. « Mais comme elle me fera sans doute quelques questions sur votre compte, je serai forcé de lui dire que l'idée de venir la voir ne vous a pas souri du tout. » « Ce qui lui fera assurément beaucoup de peine, » répondit les morts avec un éclat de rire un peu forcé. « Oui, oui, oh, jouez au plus fin avec moi, mon camarade, » reprit le meunier. « Mais vous riez pas de bon cœur. » « Monsieur le meunier, » répliqua les morts, perdant patience, « vos insinuations, autant que je puis les comprendre, commencent à être assez déplacées. Je ne sais pas si vous êtes aussi dévoué à la personne en question que vous le prétendez, mais il ne me semble pas que vous en parliez avec autant de respect que moi, qui la connais à peine. Vous vous fâchez, ah, le voleur, c'est plus franc, et cela me taquine moins que vos moqueries. Maintenant, je sais à quoi m'en tenir sur votre compte. Ah, c'en est trop, dit Lénore irrité, cela ressemble à une provocation personnelle. J'ignore quelles folles idées vous voulez m'attribuer, mais je vous déclare que ce jeu me fatigue et que je ne souffrirai pas plus longtemps votre impertinence. « Oh, vous vous fâchez tout de bon, » dit le grand Louis d'un ton calme. « Je suis bon pour vous répondre. Je suis beaucoup plus fort que vous. Mais sans doute vous êtes compagnon de quelques devoirs et vous connaissez la canne. Et d'ailleurs, vous autres parisiens, on dit que vous savez tout jouer du bâton comme des professeurs. Nous autres, nous ne connaissons pas la théorie, nous n'avons que la pratique. Vous êtes plus adroit que moi, probablement. Moi, je cognerai un peu plus dur que vous. Bon, ça égalisera la partie. Allons derrière le vieux rempart, si vous voulez, ou bien au café du père Robichon. Il y a une petite cour, on peut s'expliquer sans témoin, car il n'y a pas de danger qu'il appelle la garde, il sait trop bien vivre pour cela. « Allons, se dit les morts, j'ai voulu être ouvrier, les lois de l'honneur sont aussi rigides au bâton qu'à l'épée. Je ne connais pas l'art féroce de tuer mon semblable avec une arme plus qu'avec une autre. Mais si cet Hercule gaulois veut se donner le plaisir de m'assommer, je ne l'éviterai pas en lui parlant raison. Ce sera d'ailleurs la seule manière de me débarrasser de ces questions. » Et je ne vois pas pourquoi je serais plus patient qu'un gentilhomme. Le généreux et pacifique meunier n'avait aucune envie de chercher querelle à Henri, comme celui-ci le supposait, faute de comprendre l'intérêt qu'il portait réellement à Madame de Blanchemont, et à lui par conséquent. Mais ce dernier sentiment était mêlé d'une méfiance dont le grand Louis eût voulu se guérir l'esprit par une sincère explication. N'ayant pas réussi à son tour, il se croyait provoqué, et en prenant le chemin du café Robichon, chacun des deux adversaires se persuadait qu'il était forcé de répondre à la fantaisie belliqueuse de l'autre. 6 heures sonnaient à l'horloge d'une église voisine lorsqu'ils arrivèrent au café Robichon. C'était une maisonnette décorée de ce titre fastueux qu'on voit maintenant jusque sur les plus humbles cabarets des provinces les plus arriérées, café de la Renaissance. On y entrait par une étroite allée plantée de jeunes acacias et de dahlias superbes. La petite cour aux explications était adossée au mur de l'église gothique, revêtue en cet endroit de lierre et de roses grimpantes. Des berceaux de chèvrefeuille et de clématite interceptaient le regard des voisins et parfumaient l'air matinal. Cette cachette fleurie, déserte encore et proprement sablée, semblait destinée à des rendez-vous d'amour, beaucoup plus qu'à des scènes tragiques. En y introduisant les morts, le grand Louis ferma la porte derrière lui, puis s'asseyant à une petite table de bois peinte en verre. Ah ça, dit-il, sommes-nous venus ici pour nous allonger des coups ou pour prendre le café ensemble? C'est comme il vous plaira, répondit les morts. Je me battrai avec vous si vous voulez, mais je ne prendrai pas de café. Vous êtes trop fier pour ça, et tout simple, dit le grand Louis en haussant les épaules. Quand on reçoit des lettres d'une baronne. Ah, vous recommencez donc. Alors, laissez-moi m'en aller ou battons-nous tout de suite. Mais je ne peux pas me battre avec vous, dit le meunier. Vous n'avez qu'à me regarder, je crois, pour voir que je suis pas un capon. Et cependant, je refuse la partie que vous m'avez proposée. Madame de Blanchemont ne me le pardonnerait jamais. Et cela perdrait toutes mes affaires. Qu'à cela ne tienne. Si vous pensez que Madame de Blanchemont vous blâme d'être querelleur, vous n'êtes pas forcé de lui dire que vous m'avez cherché l'Oise. Ah, oh, c'est donc moi qui vous ai cherché l'Oise, à présent. Mais qu'est-ce qui a parlé le premier de se battre? Il me semble que vous êtes le seul qui en ayez parlé, mais peu importe, j'accepte la proposition. Mais qu'est-ce qui a insulté l'autre? Je vous ai rien dit que d'honnête et vous m'avez traité d'impertinent. Votre manière d'interpréter mes paroles et mes pensées était incivile. Je vous ai signifié de me laisser en paix. Oui, c'est ça. Vous m'avez ordonné de me taire. Et si je veux pas, moi, voyons. Ben, je vous tournerai le dos, et si vous le trouvez mauvais, nous nous battrons. Ce garçon-là est entêté comme tous les diables, s'écria le grand Louis en frappant de son large poing sur la petite table qui se fendit par la moitié. Tenez, monsieur le Parisien, vous voyez bien comme j'ai la main lourde. Votre fierté me donnerait envie de savoir si votre tête est aussi dure que cette branche de chêne. Car il n'y a rien de plus insolent au monde que de dire à un homme, je ne veux pas vous écouter. Et pourtant, je ne dois pas, je ne peux pas faire tomber un cheval de cette tête de fer. Écoutez, il faut en finir. Je vous veux pourtant du bien, j'en veux surtout à une personne pour qui je me ferai casser le bras et les jambes et qui a, j'en suis sûr, la fantaisie de s'intéresser à vous. Alors, il faut s'expliquer. Je vous ferai plus de questions puisque c'est peine perdue. Mais je vous dirai tout ce que j'ai sur le cœur pour ou contre vous. Et quand j'aurai dit, si cela ne vous convient pas, nous nous battrons. Et si ce dont je vous soupçonne est vrai, Je n'aurai aucun regret de vous casser la mâchoire. Allons, il faut bien s'entendre davantage avant de se mesurer et savoir pourquoi on le fait. Nous allons prendre le café, car je suis à jeûne depuis hier et mon estomac crie misère. Si vous êtes trop grand, seigneur, pour me laisser payer les coûts, ben convenons que le mois étrier des deux s'en chargera après l'affaire. Soit, dit Henri, qui se regardant comme en état d'hostilité avec le meunier, ne craignait plus de s'oublier avec lui par bienveillance. Le père Robichon apporta le café lui-même, en faisant toutes sortes d'amitiés au grand Louis. « C'est donc un de tes amis, lui dit-il en regardant les morts avec la curiosité des industriels peu affairés des petites villes. Je le connais pas, mais c'est égal. Ce doit être quelque chose de bon puisque tu me l'amènes. Voyez-vous, mon garçon, s'ajouta-t-il en s'adressant à les morts, vous avez fait là, en arrivant dans notre pays, une bonne connaissance. Vous ne pouviez pas mieux tomber, le grand Louis est estimé d'un chacun et de tout le monde. Pour moi, oh, je l'aime comme mon fils. Oh, c'est qu'il est sage, honnête et doux. Doux comme un agneau, malgré qu'il soit le plus fort homme du pays. Mais je peux bien dire que jamais, au grand jamais, il a fait de scandale nulle part, et qu'il donnerait pas une chiquenaude à un enfant, et que je l'ai jamais entendu élever la voix dans ma maison. Dieu sait pourtant qu'il y rencontre bien des gens crêleurs, mais il met la main partout. » Cet éloge, si singulièrement placé dans un moment où le grand Louis amenait un étranger au café Robichon pour vider une querelle avec lui, fit sourire les deux jeunes gens. Chapitre 17. Le guet de la Vauvre. Cependant, le panégyrique paraissait si sincère que les morts, déjà disposés précédemment à une grande sympathie pour le meunier, réfléchit à la singularité de sa conduite en cette circonstance et commença à se dire que cet homme devait avoir de puissants motifs pour l'interroger. Ils prirent le café ensemble avec beaucoup de politesse mutuelle, et quand le père Robichon les eut débarrassés de sa présence, le meunier commença ainsi. « Monsieur, il faut bien que je vous appelle comme ça, puisque je ne sais pas si nous sommes amis ou ennemis. Vous savez d'abord que je suis amoureux, ne vous en déplaise, d'une fille trop riche pour moi et qui ne m'aime que juste ce qu'il faut pour ne pas me détester. Ainsi je peux parler d'elle sans la compromettre, et d'ailleurs vous ne la connaissez pas. Je n'aime pourtant pas à parler de mes amours, c'est ennuyeux pour les autres, surtout quand ils ont été piqués de la même mouche, et qui sont, comme on l'est en général dans cette maladie-là, égoïstes en diable et soucieux eux-mêmes du prochain point. Cependant, comme moi, en travaillant tout seul à remuer une montagne, on n'avance à rien. Mettre ta fiction s'entraîner un peu par l'amitié, on ferait au moins quelque chose. Voilà pourquoi j'aurais voulu votre confiance, comme j'ai celle de la dame que vous savez bien. Et pourquoi je vous donne la mienne sans trop savoir si elle sera bien placée. Donc, j'aime une fille qui aura en dot 30 000 francs de plus que moi. Et par ce temps qui court, c'est comme si je voulais épouser l'impératrice de la Chine. Je me soucie de ces 30 000 francs comme d'un fétu, mais je veux dire que je voudrais les envoyer au fin fond de la mer, puisque c'est là ce qui nous sépare. Mais jamais les empêchements m'ont fait entendre raison à l'amour. Et j'ai beau être gueux, je suis amoureux. Et j'ai que ça en tête. Et si la dame que vous savez bien ne vient pas à mon secours, comme elle me l'a fait espérer, je suis un homme perdu. Je suis capable, oh, je sais pas de quoi, je suis capable. Et en disant cela, la figure ordinairement enjouée du meunier s'altéra si profondément que les morts furent frappés de la force et de la sincérité de sa passion. « Eh bien, lui dit-il avec cordialité, puisque vous avez la protection d'une dame si bonne et si éclairée, on la dit-elle du moins. « Je pense qu'on dit d'elle, répondit grand Louis, impatienté de la réserve obstinée du jeune homme. « Je sais ce que j'en pense, moi, et je vous dis que cette femme-là, c'est un ange du ciel. » Tant pis pour vous si vous ne savez pas. Dans ce cas, dit les morts, qui se sentaient vaincus intérieurement par cet hommage si sincère rendu à Marcel, voulez-vous en venir, mon cher monsieur Grand-Louis ? Ben, je veux vous dire que, voyant cette femme si bonne, si respectable et d'un cœur si pur, disposée en ma faveur et en train déjà de me donner de l'espérance lorsque je croyais tout perdu, je me suis attaché à elle tout d'un coup et pour toujours. L'amitié m'est venue, comme on dit dans les romans, que l'amour vient en un clin d'œil. Et maintenant, je voudrais rendre d'avance à cette femme tout le bien qu'elle a l'intention de me faire. Je voudrais qu'elle fût heureuse comme elle le mérite, heureuse dans ses affections, puisqu'elle n'estime que cela au monde et méprise la fortune, heureuse de l'amour d'un homme qui l'ama pour elle-même et ne s'occupa pas de supputer ce qui lui reste d'une richesse qu'elle perd si joyeusement, ne changeant lui qu'à s'informer de ce qu'elle possède ou ne possède pas, afin de savoir s'il doit la rejoindre ou s'en aller bien loin d'elle. L'oublier, sans doute, et essayer, si sa jolie figure fera quelque autre conquête plus lucrative, car enfin... Lénore interrompit le meunier. Mais quelle raison avez-vous donc, dit-il en pâlissant, de craindre que cette dame respectable ait si mal placé ses affections? Quel est le lâche à qui vous supposez de si hauts calculs dans l'âme? J'en sais rien, dit le meunier, qui observait attentivement le trouble d'Henri, ne sachant encore s'il devait l'attribuer à l'indignation d'une bonne conscience ou à la honte de se savoir deviner. Tout ce que je sais, c'est qu'il est venu à Montboulin, il y a 15 jours environ, un jeune homme, dont la mine et les manières semblaient fort honnêtes, mais qui paraissait avoir du souci, et puis qui, tout à coup, s'est mis à parler d'argent, à faire des questions, à prendre des notes, enfin à établir par francs et centimes, sur un bout de papier qu'il restait encore à la dame de Blanchemont, un assez joli débris de sa fortune. Et en vérité, vous pensez que ce garçon-là ait été prêt à déclarer son amour au cas seulement où le mariage lui paraîtrait avantageux? Alors c'était un misérable. Mais pour l'avoir si bien deviné, il faut être soi-même. Achevez, parisien, vous gênez pas, dit le meunier, dont les yeux brillèrent comme l'éclair, puisque nous sommes ici pour nous expliquer. Ben je dis, reprit les morts non moins irrités, que pour interpréter ainsi la conduite d'un homme qu'on ne connaît pas et dont on ne sait rien, il faut être soi-même fort amoureux de la dot de sa belle. Les yeux du meunier s'éteignirent et un nuage passa sur son front. « Oh, oh !» dit-il d'une voix triste, « je sais bien qu'on peut dire cela. » Et je parie que bien des gens le diraient, si je parvenais à me faire aimer. Mais son père n'a qu'à la déshériter, ce qui arriverait certainement si elle m'aimait. Et alors on verra, si je fais sur mes doigts le compte de ce qu'elle aura perdu. Meunier, dit Lénore d'un ton brusque et franc, je ne vous accuse pas, moi. Je ne veux pas vous soupçonner. Mais comment se fait-il qu'avec une âme honnête, vous n'ayez pas supposé ce qui était le plus vraisemblable et le plus digne de vous? Ce qui pourrait expliquer les sentiments du jeune homme, ce serait sa conduite ultérieure. S'il courait avec transport vers sa chère dame, je ne dis pas, mais s'il s'en va au diable, c'est différent. Il faudrait supposer, répondit les morts, qu'il regarde son amour comme insensé, qu'il ne veut pas s'exposer à un refus. Oh, je vous y prends, s'écria le meunier. Voilà les mensonges qui recommencent. Je sais pertinemment, moi, que la dame est enchantée d'avoir perdu sa fortune, qu'elle a même pris courageusement son parti de la ruine totale de son fils. Et tout cela parce qu'elle aime quelqu'un qu'on lui aurait peut-être fait un crime d'épouser sans toutes ces catastrophes-là. Son fils est ruiné, dit Henri en tressaillant. Totalement ruiné? Est-ce possible, en êtes-vous certain?
Très certain, mon garçon, répondit le meunier d'un air narquois.
La tutrice qui aurait pu, pendant une longue minorité, partager avec un amant ou un mari les intérêts d'un gros capital n'aura certainement plus que des dettes à payer. Si bien que son intention, Holm me le disait hier soir, est de faire apprendre à son enfant quelques métiers pour vivre. Henri s'était levé. Il se promenait avec agitation dans la petite cour, et l'expression de sa figure était indéfinissable. Grand Louis, qui ne le perdait pas de vue, se demanda s'il était au comble du bonheur ou du désappointement. « Voyons, se dit-il, est-ce un homme comme elle et comme moi, haïssant l'argent, qui contrarie les amours ou bien un intrigant qui s'est fait aimer d'elle à l'aide de ce je ne sais quel sortilège et dont l'ambition vise plus haut que la jouissance du petit revenu qui lui reste ?» Ayant rêvé quelques instants, Grand Louis, qui tenait à honneur de donner une grande joie à Marcel ou de la débarrasser d'un perfide en le démasquant, s'avisa d'un stratagème. « Allons, mon garçon, dit-il en adoucissant sa voix, vous êtes contrarié, bon, il n'y a pas de mal à ça. Tout le monde n'est pas romanesque, et si vous avez pensé au solide, c'est que vous êtes fait comme tous les gens de ce temps-ci. Vous voyez donc que je ne vous ai pas rendu un si mauvais service en me querellant avec vous. Je vous ai appris que le Douaire était à la sécheresse. Sans doute vous comptiez sur les bénéfices de la tutelle du jeune héritier, car vous saviez bien que les fameux 300 000 francs étaient une dernière, une pure illusion de la veuve.
« Comment dites-vous ? » s'écria les morts en suspendant sa marche agitée. « Cette dernière ressource lui est enlevée ?»«
Sans doute, oui. Bon, faites pas semblant de l'ignorer. Vous avez trop bien été au renseignement pour ne pas savoir que la dette envers le fermier bricolin est quadruple de ce qu'on a supposé, et que la dame de Blanchemont va être obligée de postuler pour un bureau de poste ou de tabac si elle veut avoir de quoi envoyer son fils à l'école.
Est-il possible ? Répéta les morts, stupéfaits et comme étourdis de cette nouvelle. Une révolution si prône dans sa destinée ? Un coup du ciel ?
Oui, un coup de foudre, dit le meunier avec un rire amer.
Eh bien, dites-moi, n'en est-elle pas affectée du tout ?
Oh, du tout ! Tant s'en faut qu'au contraire, elle se figure que vous ne l'en aimerez que mieux. Mais vous, pas si bête, n'est-ce pas ?
Mon cher ami, répondit les morts sans écouter les paroles du grand Louis, que m'avez-vous dit là ?
Et moi qui voulais me battre avec vous ?
Vous me rendez un grand service lorsque j'allais. Oh, vous êtes pour moi l'envoyé de la Providence.
Grand Louis, attribuant cette effusion à la satisfaction qu'éprouvaient les morts d'être avertis à temps de la ruine de ses cupides espérances, détourna la tête avec dégoût et resta quelques instants absorbé par une profonde tristesse.
Voir une femme si confiante et si désintéressée, se disait-il, abusée par un frelu qui est pareil. Oh, il faut qu'elle ait aussi peu de raison qu'il a peu de cœur. J'aurais dû penser qu'en effet elle était fort imprudente, mais puisque dans un seul jour où je l'ai vue pour la première fois de ma vie, elle m'a laissé découvrir tous ses secrets. Elle est capable de livrer son bon cœur au premier venu. Oui, il faudra que je la gronde, que je l'avertisse, que je la mette en garde contre elle-même en toute chose. Et pour commencer, il faut que je la délivre de ce drôle-là.
On peut déchirer un peu l'oreille de ce faquin. On peut faire à son joli museau une égratignure qui l'empêche de se montrer de sitôt devant les belles. Oula, monsieur le Parisien, dit-il, sans se retourner et en tâchant de rendre sa voix calme et claire. Vous m'avez entendu, et à présent, vous savez le cas que je fais de vous. Je sais ce que je voulais savoir. Vous n'êtes qu'une canaille, voilà mon opinion. Je vais vous la prouver tout de suite, si vous voulez bien le permettre. En parlant ainsi, le meunier avait avec assez de flegme retroussé ses manches, ne voulant faire usage que de ses poings. Il se leva et se retourna, surpris de la lenteur de son antagoniste à lui répondre. Mais à sa grande surprise, il se trouva seul dans la cour. Il parcourut l'allée aux Dahlias, explora tous les coins du café Robichon, arpenta toutes les rues voisines. Les morts avaient disparu. Personne ne l'avait vu sortir. Grand Louis, indigné, presque furieux, le chercha vainement dans toute la ville. Après une heure d'inutile perquisition, le meunier essoufflé commença à se lasser et à se décourager. « C'est égal, se dit-il en s'asseyant sur une borne. Il ne partira pas une diligence ni une patache de la ville aujourd'hui, dont je n'aille compter et regarder les voyageurs sous le nez. Ce monsieur ne s'en ira pas sans que... Mais bon, je suis fou. Ne voyage-t-il pas à pied? Et un homme qui tient à ne pas payer une dette d'honneur, ne prend-il pas le pays par pointe, sans tambour ni trompette? Et puis, ajouta-t-il en se calmant peu à peu, ma chère madame Marcel, me serait sans doute bien mauvais gré de rehausser son galant. On ne se défait pas comme cela d'une si forte attache, et la pauvre femme ne voudra peut-être pas me croire quand je lui dirai que son Parisien est un vrai marchais. Comment vais-je m'y prendre pour la désabuser? C'est mon devoir, et pourtant quand je songe à la peine que je vais lui faire. Oh, chère dame du bon Dieu, est-il possible qu'on se trompe à ce point? En devisant ainsi avec lui-même, le meunier se rappela qu'il avait une calèche à vendre et alla trouver un ex-fermier enrichi qui, après avoir bien examiné et marchandé longtemps, se décida par la crainte que M. Bricolin ne vint à s'emparer de cet objet de luxe et ce bon marché. « Achetez, monsieur Ravalard, disait Grand Louis avec l'admirable patience dont sont doués les Berrichons. Lorsque, comprenant bien qu'on est décidé à s'accommoder de leurs denrées, ils se prêtent par politesse à feindre d'être dupes de la prétendue incertitude du chaland. Je vous l'ai déjà dit 200 fois, déjà, et je vais vous le répéter tant que vous voudrez. C'est du beau, du bon, du fin et du solide. Ça sort des premiers fabricants de Paris. C'est un rendu conduit gratis. » Vous me connaissez trop pour croire que je m'en mêlerais s'il y avait une attrape là-dessous. De plus, je ne vous demande pas ma commission, qu'il vous faudrait pourtant bien payer à un autre. Vous voyez, c'est tout profit. Les irrésolutions de l'acheteur durèrent jusqu'au soir. Le déboursement des écus lui déchirait l'âme. Quand Grand Louis vit le soleil baisser, « Bon, allons, lui, dit-il, je veux pas coucher ici, moi je m'en vais. Je vois bien que vous voulez pas de cette jolie brouette si reluisante et si bon marché. J'y vais atteler Sophie et je m'en retournerai à Blanchemont, fier comme Artaban. Ce sera la première fois de ma vie que je roulerai carrosse. Ça m'amusera. Et ça m'amusera encore plus de voir le père et la mère Bricolin se carrer là-dedans pour aller le dimanche à la Châtre. » « M'est avis pourtant que vous et votre dame vous y auriez fait meilleure figure. » Enfin, la nuit approchant, M. Ravalard compta l'argent et fit remiser la belle voiture sous son hangar. Grand Louis chargea les effets de Madame de Blanchemont sur sa charrette, 1 000 et 2 000 francs dans une ceinture de cuir,
et partit au grand trot de Sophie, assis sur une malle, et chantant à tue-tête en dépit des chaos et du vacarme de ses grandes roues sur le pavé. Il marchait vite, ne courant pas le risque de se tromper de voie comme le patachon, et il avait dépassé le joli hameau de mer que la lune n'était pas encore levée. La vapeur fraîche qui, dans la vallée noire, même durant les chaudes nuits d'été, nage sur de nombreux ruisseaux encaissés, coupait de nappes blanches qu'on aurait prises pour des lacs la vaste étendue sombre qui se déployait au loin. Déjà les cris des moissonneurs et les chants des bergères avaient cessé. Des vers luisants, semés de distance en distance dans les buissons qui bordent le chemin, furent bientôt les seules rencontres que put faire le meunier. Cependant, comme il traversait une de ces landes marécageuses que forment les méandres des rivières dans ce pays d'ailleurs si fertile et si méliculeusement cultivé, il lui sembla voir une forme vague qui courait dans les joncs devant lui et qui s'arrêta au bord du gué du Louvre comme pour l'attendre. Grand Louis était peu sujet au mal de la peur. Cependant, comme il avait ce soir-là à défendre une petite fortune dont il était plus jaloux que si elle lui appartenait, il se hâta de rejoindre sa charrette, dont il s'était un peu écarté, ayant fait un bout de chemin à pied, autant pour se désengourdir que pour soulager sa fidèle Sophie. La ceinture de cuir qui le gênait avait été déposée par lui dans un sac de blé. Quand il fut remonté sur son char, qu'il appelait facétieusement, dans le style du pays, son équipage suspendu en cuir de brouette, c'est-à-dire en bois pur et simple, il s'assura sur ses jambes, s'arma de son fouet dont la lourde poignée faisait une arme à deux fins, et debout comme un soldat à son poste, il marcha droit sur le voyageur de nuit, en chantant gaiement un couplet de vieux opéras comiques que Rose lui avait appris dans son enfance. Notre meunier, chargé d'argent, revenait au village, quand tout à coup, voilà qu'il entend un grand bruit dans le feuillage. Votre meunier est homme de cœur, on dit pourtant qu'il eut grand-peur. Or écoutez, mes chers amis, si vous voulez m'en croire, n'allez pas dans la vallée noire. Je crois que la chanson dit « dans la forêt noire ». Mais grand Louis, qui se moquait de la césure comme des voleurs et des revenants, s'amusait à adapter les paroles à sa situation. Et ce couplet naïf, jadis fort en vogue, mais qui ne se chantait plus guère qu'au moulin dans Gibault, charmait souvent les ennuis de ses courses solitaires. Lorsqu'il fut près de l'homme qu'il attendait de pied ferme, il jugea que le poste était assez bien choisi pour une attaque. Le gué était, sinon profond, du moins encombré de grosses pierres, qui forçaient les chevaux d'y marcher avec précaution, et de plus, pour descendre dans l'eau, il fallait s'occuper de soutenir la bride, le raidillon étant assez rapide pour exposer l'animal à s'abattre. « Nous verrons bien, se disait grand Louis, avec beaucoup de prudence et de calme.